ערב טוב, בעזרת השם, לשם ייחוד קודשה ברכוש שכינתה. Toute notre étude n'est là que pour faire l'union entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Autrement dit, nous sommes là comme vecteurs de la pensée divine pour faire venir sa pensée diriger l'humanité et le monde d'une manière générale. Les valeurs de l'infini qui descendent dans ce monde et se dévoilent dans ce monde d'une manière claire et limpide, cela s'appelle la Géoula. Donc la Géoula, c'est en réalité devenir ce que nous sommes dans notre nature, le porte-parole de l'infini.
Excusez-moi, la dernière fois que vous avez dit la Géoula, il y a une seule définition, une seule, c'est quand la terre elle revient à son propriétaire.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que la Géoula, c'est faire revenir les valeurs de Dieu, je répète, sur notre terre, étant donné que les paroles de Dieu, c'est que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'à partir de cette terre, nous pouvons, et uniquement à partir de cette terre, faire venir les valeurs de l'infini dans ce monde. Et donc, tant qu'Israël n'est pas sur sa terre, il ne peut pas le faire. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre, ça fait partie de son programme. Et donc, à chaque fois qu'il y a rencontre entre l'infini et le monde, par l'intermédiaire de nos acteurs de la Torah, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et tous les acteurs, une seule parole ouvre le dialogue, l'arrivée en terre d'Israël, avant quoi que ce soit d'autre. Donc nous voyons qu'en réalité, cette terre n'est pas, et là je reprends les paroles du Rav, n'est pas un davar, n'est pas un kinyan, c'est-à-dire n'est pas une chose, car chose égale extérieur, chitsoni. Nous avons étudié et expliqué que cela vient du mot chatissa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de façon hermétique, cette terre n'est pas hermétique à la parole de l'infini, comme le sont les autres terres selon leur nature. C'est pour cela que même si l'infini béni soit-il fait vivre tous les pays du monde, bien entendu, et toutes les nations, il n'en reste pas moins important de comprendre que le dévoilement de cet infini ne peut pas se faire de partout. Il ne peut se faire qu'à l'endroit où lui a choisi. Et par le peuple qu'il aura choisi. Ashrei ha'am shekacha lo. Le peuple qui a reçu ce don, qui s'appelle donc une segula, qui ne dépend pas de nos actes, c'est un cadeau venu du ciel, intrinsèque à notre nature, nous a été donné depuis notre fabrication intérieure, avec la capacité d'être ce conducteur, ce conduit, ce chauffard. Pas le chauffard en français. Hein. Le chauffard en français, c'est un mauvais conducteur. En hébreu, c'est le meilleur conducteur qui soit. Donc quand on veut avoir un conduit qui ne fasse pas de séparation, on utilise un chauffard. Donc le peuple d'Israël est le chauffard d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un moyen, donc, cette terre, ni pour se rassembler, ni pour une notion physique, ni pour une notion spirituelle. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est encore dans la partie que je vous ai mis en petit. Chativa atzmutit. C'est d'abord une chativa atzmutit, c'est-à-dire un bloc, une unité essentielle, unité d'essence. Chativa qui veut dire quelque chose qui fait un. Avec quoi ? Kshura bekesh chaim imauma, qui est lié par un lien de vie avec la nation, pas avec les juifs, avec la nation. Autrement dit, tu vis sur la terre d'Israël, tu es censé être au niveau de la nation. Si tu te considères encore comme un juif individuel, religieux ou pas, peu importe, tu n'es pas en lien avec la terre réellement. C'est-à-dire que cette terre doit faire sortir de toi le peuple qui se cache à l'intérieur de ton être et non pas le juif individuel que tu étais en exil. Donc en Eretz Israël, la notion de peuple doit jaillir de chacun de nous. Je dois me considérer comme un peuple, comme une nation sur sa terre. Et moi, individuel que je suis, je ne suis qu'en réalité l'un des aspects de cette nation, comme un grand soleil, la nation d'Israël, qui rayonne, et je suis l'un des rayons. Et donc je dois être fidèle au soleil, comme un rayon du soleil. Il n'existe pas des rayons qui fabriquent un soleil, c'est le soleil qui rayonne. Donc même si on se rassemble tous, on ne pourra jamais fabriquer la nation d'Israël. Donc la nation d'Israël n'est pas l'ensemble de ses individus. Attention, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'épanchement de cette grande nation à travers des individus. De la même manière qu'un rassemblement de rayons ne pourra jamais créer un soleil, c'est un soleil qui rayonne. Les rayons, à la limite, n'existent même pas. C'est le soleil qui rayonne. Éteignez le soleil, il n'y a plus de rayons. Éteignez l'ensemble, qui est l'âme d'Israël, cette création divine, il n'y a plus d'individus, il n'y a plus de juifs. Qu'est-ce que c'est que cette notion de Klal Israël? Il faudra y revenir. En tout cas, c'est une Sgoula, une création divine, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est très difficile à concevoir, en tout cas impossible à concevoir, et ça peut faire mal à certains, au niveau rationnel. C'est-à-dire ceux qui veulent appréhender ce sujet au niveau rationnel, logique, ne peuvent pas y arriver. Parce qu'il s'agit d'un élément qui dépasse. Dans la Kabbalah, on appelle cela Radla. C'est les initiales de Resha de la Itieda. C'est une tête qui n'est pas connue, qui ne peut pas être connue et qui elle-même ne sait pas qui elle est réellement. C'est une notion très 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 puissante. Et selon le Zohar, c'est de cette partie-là, Resha de la Itieda, qui se trouve dans un monde bien au-delà des mondes que nous avons cité tout à l'heure, la dernière fois, ni Atzilut, ni Bria, ni Yetzira, ni Atia, c'est un monde qui est bien avant, qui s'appelle Adam Kadmon. Et dans ce monde-là, de Adam Kadmon, qui est une notion très profonde en Kabbalah, qui est la source même de toute existence, à partir du Créateur, bien entendu, c'est lui qui a créé cette existence-là, eh bien c'est de là, de cette première pensée qu'est issue cette notion de Klal Israël, du tout Israël. Quand vous ne pouvez plus parler de quelque chose, par exemple à Pourim, on vous demande d'arriver à ce degré. Ad de lo yada. Vous devez boire à Pourim pour arriver à quoi? À lâcher prise au niveau intellectuel. Parce qu'au niveau intellectuel, tu ne pourras jamais en réalité même pas toucher ni approcher de l'ombre de cette notion-là. Alors on te dit, tu veux un tout petit peu, pas comprendre, mais avoir un certain contact avec ce degré-là, il faut immédiatement abandonner, avant de rentrer au vestiaire, ta logique rationnelle. Un jour dans l'année, on nous demande d'arriver à ce degré-là. Et le Harizal nous dit, boire jusqu'à même confondre dans tes notions à toi le bien et le mal. je veux que tu dises que Aman est béni. Comme ça dit le Harizal. Alors, au moment où tu comprendras que tu ne comprends pas et qu'il y a des notions qui pour toi sont le bien et le mal dans ton monde intellectuel, cérébral, cartésien, sache qu'il y a des éléments qui te dépassent, c'est de cet élément-là et encore plus haut que vient la notion de ce tout. Or, la terre qui est notre sujet est liée à ce tout d'Israël. Vous avez compris en réalité vers quoi le Rav est en train d'aller. Le Rav Kook nous dit, à la Vachalom, que la terre d'Israël correspond dans son degré intrinsèque à cette notion qui dépasse complètement l'entendement, qui est de l'ordre de la nature même de la nation d'Israël, qui est une neshama collective créée par l'infini, béni soit-il. Tiens, ça va très loin. Il y avait une question ? Si, le Klal Israël existe sans les individus. D'accord ? Le Klal Israël s'habille dans les individus que nous sommes, mais il existait bien avant que nous soyons là. C'est une création divine qui ne s'est pas dévoilée dans le monde tant que nous n'étions pas. Mais elle, elle existe. Comme une neshama qui existe bien avant le bébé que vous avez amené au monde. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre mari ? Tout simplement lui apporter un corps. Mais la Neshama existait bien avant cet enfant. Au niveau corporel, c'est la même chose. La Neshama d'Israël collective existe bien avant les individus que vous voyez ici. Seulement, elle a attendu patiemment que les individus que nous sommes apparaissent. Quand est-ce qu'ils ont décidé de faire partie de ce programme ? À la sortie d'Égypte. Quand est-ce exactement à la sortie d'Égypte, au moment de peindre ses linteaux avec du sang et la mezouza, le mashkof et les linteaux. Ceux qui ont fait cet acte-là, en réalité, ils ont peint quoi ? L'ouverture. Est-ce que le sang était peint à l'extérieur de la maison ou à l'intérieur ? À l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas pour Dieu. Dieu n'est pas Batman qui est en train de passer pour voir s'il y a du sang sur les linteaux. En réalité, c'était une preuve que tu te donnais à toi-même si tu voulais faire partie du programme. Donc c'était pour toi. Donc j'ai peint quoi à la sortie d'Égypte ? Ma porte de sortie, mon ouverture. D'ailleurs, si vous regardez la forme de ce qui était peint, c'est la lettre V. Donc ils ont écrit la lettre V pour justement avoir ce passage comme la lettre V de l'infini du côté gauche qui est au niveau des sphères, la Bina, qui descend et qui vient jusqu'en bas comme une femme qui accouche avec ses deux jambes. Donc la lettre V va donner naissance au mot He Rayon, la grossesse. Donc la lettre V est très importante, c'est elle qui nous fait rentrer dans ce programme. Ce n'est pas par hasard que l'Assemblée d'Israël, qui s'appelle aussi la Shrina, qui s'appelle aussi la Malkout, qui s'appelle aussi Klal Israël, Knesset Israël, Bat Zugo, eh bien c'est la lettre He, des quatre lettres du nom d'Hachem. La dernière lettre He, c'est de cette lettre que je suis en train de parler, et donc elle est dans son programme, programmée bien avant que nous soyons là. Ok ? Donc à partir du moment où la terre d'Israël est équivalente à ce degré-là, ça veut dire que si je vis en deçà, moins que ce degré-là, en vivant en Eretz Israël, ben je suis en train de gâcher ma propre existence parce que je suis en train de vivre en tant qu'individu dans une terre qui est complètement le collectif Israël. Alors, qu'est-ce que je dois faire de facto ? Mais à chaque fois que je commence à faire quelque chose, peu importe, là j'ai commencé un cours, vous m'avez entendu, j'ai dit « Beshem Kol Israël ». Je ne parle qu'au nom de cette grande Neshama créée bien avant que nous soyons là. C'est en son nom que moi, Yoël, individuel, je peux ouvrir ma bouche maintenant et parler. Alors en réalité, c'est une force aussi que je me donne. Pourquoi ? Parce que quand je parle en tant que Yoël, je suis très limité. Alors que si je demande l'autorisation de parler au nom de cette nation, c'est presque l'infini qui peut me traverser. Donc vous vous donnez les moyens de vous dépasser complètement seulement parce que vous êtes conscient que vous êtes un rayon de cette grande Neshama qui s'appelle Klal Israël. Beshem Kol Israël. Kol Israël yesh lo chelek le'olam haba. Ça ne veut pas dire tous les juifs. Kol Israël. Cette notion, c'est ce qu'on appelle aussi le olam haba. Qui n'est pas au futur, qui est au présent. Le monde qui vient, qui est dans une porte cachée de notre existence, comme un autre élément. Il y a des portes pour y pénétrer, et ceux qui sont capables d'y pénétrer vont là-bas, voient ce qui se passe dans cet élément supérieur, et reviennent dans ce monde pour traduire ce qu'ils ont vu là-bas dans leur vie privée. Donc ma vie privée, en fait, doit être, à la fin de ma vie, jusqu'à 120 ans, le reflet de ce Klal Israël, au maximum. Si je suis fidèle à cette notion, je suis Ne'eman, c'est-à-dire j'ai certifié, Ne'eman la Makor, je suis certifié à la source. Ne'eman, qui a donné naissance au mot Omanout, Emouna, Amen. C'est la même chose. Quand vous dites Amen, c'est quoi ? Je certifie. Les Amen, c'est certifier. L'inverse, c'est refuser de certifier. Donc vous inversez les lettres. Ça se dit en hébreu, Lema'en. Vous avez rencontré ce mot ? Si, dans la paracha de cette semaine. On vient de le lire. Faites attention. Ki im ma'en ata leshaleach et ha'am, paro, si tu refuses, ma'en, c'est l'inverse de amen. Donc tu ne certifies pas, toi, paro, parce que tu n'es qu'un gêneur dans tout ce circuit. Et donc chacun de nous a ce petit pharaon, plus ou moins grand, en lui, qui joue au refuseur, au négationniste, à l'intérieur de nous. Et notre certificateur, qui lui est juste en face de lui, qui s'appelle Moshe. Et lui certifie. C'est Hachem, le nom. Donc vous avez deux acteurs qui apparemment sont coincés dans le Sefer Torah qui est derrière moi dans une boîte, qu'on ouvre de temps en temps. Pas du tout. C'est à l'intérieur de chacun de nous. Donc toutes ces notions que nous rencontrons dans la Torah, c'est en réalité des notions qui nous appartiennent à l'intérieur de nous et qui, dans le programme de tout ce grand processus, c'est quoi le but de tout ça ? Encore une fois, de dévoiler cette nation, c'est tout. Pour l'instant, on en est là. Je ne veux pas aller un petit peu plus loin dans les sections de la Torah. Pour l'instant, Dieu a un but et il ne faut pas le déconcentrer. Le but, c'est de révéler le groupe humain qui va être capable d'être porteur de cette grande Neshama dont j'ai parlé tout à l'heure. Et pour être ce groupe humain, il faut que ce groupe humain qui va être porteur de cette Neshama soit libéré de toute angoisse, de tout dérangement, de tout ce qui peut en réalité freiner le processus. Parce que lorsque ce peuple se dévoilera dans l'humanité, il va porter le nom d'Hachem. Qui Shem Hachem Nikra Alecha. Le nom de l'infini sera porté et gravé sur toi. Veyare Umi Mekka. Et les nations du monde auront peur de toi parce que tu révèles en fait l'infini qui dérange. Pourquoi ça dérange? Parce que tout simplement c'est une logique qui dépasse la logique humaine dans laquelle nous sommes plus ou moins coincés. Depuis 2000 ans, et surtout après notre passage en Europe. Quel ?
Est-ce que
Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous venez de le dire, en vivant au rythme de cette nation. Alors c'est vrai que vivre ici, c'est une chose, elle est très importante, mais aujourd'hui on rajoute une couche. Prenez conscience de ça. C'est tout. Ne vous levez pas le matin comme un individu. Si je me lève le matin avec Yoel comme programme, c'est pas suffisant. Je suis une nation sous la forme, pour l'instant, d'un homme. Moi. Et je me dois de savoir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, pas pour Yoel, pour ma nation. Maintenant, si Yoel a des problèmes, il faut qu'il les règle au plus vite pour ne plus être dérangé. Et ces problèmes s'appellent Paro, Léa Fria. Paro, c'est embêté. C'est la même racine. Hafra'a, embêtement, empêchement. Donc je dois tout faire pour m'en sortir, pour être un super acteur de cette grande Neshama. Je vais plus loin. Si l'un de ces acteurs maintenant quitte ce monde, meurt, il y a une profanation du nom de l'infini. On est d'accord? Puisqu'il y a un acteur en moins qui joue le rôle d'un rayon de cette grande Neshama qui est censée dévoiler son nom. Donc ça s'appelle, dans le langage simple de la Torah, du Chilul Hashem. Profanation du nom, pas profanation de Dieu. On ne peut pas profaner Dieu. On peut profaner seulement son dévoilement. Donc comment vous allez écrire Hashem? Hei Shin Mem, pas Hei. Chilul Hashem, Chas Bechalila. Chilul Hashem. Parce que Shem veut dire non. Tu n'es plus porteur du nom puisque tu es mort. Il y a profanation du nom. Immédiatement, se regroupent des gens parce qu'ils ont peur du manque et ils vont transformer le chiloul en kiddush Hashem. Donc ils vont dire kaddish. Le kaddish que nous disons pour un mort, c'est tout simplement pour soigner la plaie qui vient de s'ouvrir. Il y a un acteur en moins, il faut vite combler. 10 personnes volontaires, on va dire kaddish, on va fermer l'orifice qui s'est créé, qui malheureusement ne permet pas de dévoiler l'infini, on a perdu un soldat. Sur quoi? Sur le dévoilement, sur cette trame, ce tissu humain qui s'appelle Israël, qui s'appelle Aïda, et la Gemara nous dit « En Aïda parchot me'asara », donc organise 10 personnes pour faire en réalité comme une retouche dans le vêtement qui vient d'être troué. D'ailleurs, je vous donne un exemple qui est dans la halakha. Et pareil, selon la halakha, on n'a pas le droit de porter des vêtements troués. Je sais que c'est la mode. Pourquoi? Parce que la Kabbalah nous dit qu'un vêtement troué ne protège pas complètement la personne et ça crée en fait comme un trou dans la couche d'ozone de la personne elle-même. Et chas v'chalila, il y a une pénétration de forces négatives qui peuvent embêter dans plusieurs degrés, plusieurs domaines. Mieux que ça, on n'a pas le droit de porter deux vêtements en même temps. C'est-à-dire que vous avez par exemple un pull et un blouson, ne les mettez pas en même temps. Mettez d'abord le pull et après le blouson. Si vous les portez en même temps, c'est une ségoula pour l'oubli. Vous allez tout oublier, chas v'chalila. Alors quelqu'un qui veut perdre la mémoire, eh bien qu'il porte des vêtements en même temps. Pourquoi? Parce qu'il ne crée pas l'équilibre autour de chaque vêtement qui s'appelle dans la Kabbalah Or Makif. Mais ça, c'est encore des choses à part. Donc, je suis en train de vous dire que le peuple d'Israël doit se protéger de toute chose qui vient gâcher cette trame. Et la question est très importante, parce que c'est en réalité ce qu'on appelle en hébreu une hariga, pas hariga, pas un meurtre. Hariga avec un aleph. Les érogues, c'est tissé. Bad, arug. Et donc, il faut faire un tissage, il faut fermer les orifices qui sont en réalité une perte d'énergie. Tout ceci pour vous dire qu'il y a ici un souci réel, même au niveau de la halakha, de ne pas perdre les valeurs de l'infini que nous sommes censés être les porteurs de ce message au niveau du collectif Israël. Et on a dit que le collectif d'Israël a, et là je rentre les chiffres, un chiffre important qui est clé, 600 000. Shishim ribo. C'est pour cela que nous sommes sortis d'Égypte 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Pas moins que ça. Après il y a des femmes, les enfants, les vieillards, tout ça. Mais au moins une trame qui est capable de porter cet élément cosmique qui s'appelle Klal Israël, Nishmat Ha'uma, la Neshama de la nation, et que l'Éternel lui-même a choisi un chiffre qui est secret, tellement secret que lorsque je vois 600 000 juifs rassemblés dans un endroit, je dois prononcer une bénédiction que vous n'avez peut-être jamais entendue de votre vie. Baruch ata Hashem Eloheinu Melech Haolam, Chacham Harazim. Le sage des secrets. Pourquoi? Parce que 600 000 égale grand secret. C'est une étude à part entière, bien entendu.
Excusez-moi, vous avez dit que quand il y a un mort,
Nachon. Tout simplement par la personne qui ne peut pas continuer à vivre parce que nous avons un passif, la faute du premier homme.
La personne qui meurt, c'est elle qui fait le filo lachan ?
Non, c'est un état. C'est-à-dire qu'il y a une personne en moi dans ce monde pour révéler cette force. Non, Hachem n'a pas décidé de la mort. Encore une fois. Il y a un avertissement au premier homme, et vous, vous avez l'impression tous que la mort est normale et naturelle. Alors je viens vous donner un grand coup de pied dans la fourmilière. La mort est une erreur commise par le premier homme. Comme il lui a été dit avant, « Beyom acholcha mimeno mot tamut ». Attention, si tu manges de cet arbre, tu mourras. Mais moi, j'ai prévu que tu vives tout le temps. Tu ne dois pas mourir. Donc en réalité, la mort est un scandale. Et d'ailleurs, le prophète le dit, Ishaïa, Umacha Hashem Elohim Dim'a Me'al Kolpanim. Un jour arrivera où Dieu effacera les larmes qui coulent sur nos joues. Vecherpat, écoutez bien les mots, Amo Yassir. Et la honte, parlons de la mort, c'est une honte du peuple Yassir, il enlèvera. Pourquoi? Parce que, justement, le dernier article de foi, qui clôture en réalité les 13 articles de foi, c'est quoi? La résurrection des morts. Et la Gemara, dans le traité de Sanhedrin 96, celui qui ne croit pas en la résurrection des morts ne vivra pas. D'ailleurs, pour lui, il n'y aura pas. La Torah ne dit pas, eh bien tant pis, non. Tu n'as pas cru, c'est pas grave. Tu t'es toi-même condamné à vivre, à voir ce qui se passe, et toi tu ne te réveilleras pas après. Parce que toi tu n'as pas voulu. Regardez comment c'est précis. Alors tu veux faire partie de cette résurrection, il faut que tu comprennes que c'est un élément qui fait partie de la vie. Donc nous sommes là pour éradiquer la mort, pas moins que ça. Pardon ? Nakhon. Mais il y en a. À partir du moment où il y en a cinq qui ont réussi à ne pas mourir. C'est vrai ? Et on les nomme. Et c'est pourquoi nous avons un exemple qui nous dit, qui confirme cette règle. Il y a cinq exemples qui confirment cette règle. Effectivement, on ne doit pas mourir parce que mourir, c'est en réalité arrêter le programme divin. Je vais un petit peu plus loin que ce que je suis en train de vous dire. Si vous croyez tous que la mort est normale, alors le jour de Rosh Hashanah, vous avez béni Dieu de la vie. Melech Elohim Chaim. Baruch Ata Hashem Elohim Chaim. Melech HaChaim. Melech Chafetz B'Chaim. Lema'anach Elohim Chaim. Vous vous rappelez de ces mantras? C'est-à-dire Dieu de vie, vivant, vivant, vivant. Et toi tu es en train de me dire que le grand gagnant de ce monde, c'est la mort. Donc il y a une force dans ce monde qui est plus forte que Dieu. Chas v'shalom. Ça s'appelle quoi? Comment on appelle ça? Si la mort est victorieuse sur la vie, sur le roi de la vie, sur Dieu vivant, c'est quoi? C'est le plus grand des Khilou Hashem qui soit. C'est de la Avodah Zara. Qu'est-ce? Nachon. 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 Mais, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est pas les Neshamot. C'est les Neshamot dans des corps. C'est pour ça que la résurrection des morts, c'est pas des Neshamot qui planent parce qu'elles ont une existence même maintenant. Quelqu'un qui meurt, c'est encore une Neshama. Elle a juste quitté le corps. Or, le judaïsme vient nous dire, et on va rencontrer cet axiome-là au milieu du livre, au chapitre 34 exactement, du Rav Kook, que notre but, c'est pas des Neshamot, c'est des Neshamot dans des corps. Je vais un petit peu plus loin dans mon expression, des idées, ça ne m'intéresse pas. Ce sont des idées appliquées, vivantes. Si tu n'arrives pas à porter tes idées au niveau de ton corps, de tes jambes, si ta Neshama n'est pas capable de comprendre le secret du corps, et que celui qui a créé la Neshama, c'est exactement le même qui a créé le corps, et que le corps est important, eh bien tu tomberas dans la religion qui dit que il vaut mieux mourir pour rencontrer l'éternel après la mort. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qu'on va rencontrer l'éternel après la mort. Ce n'est pas le judaïsme, ça. Aujourd'hui, vous avez lu le Hallel. Lo hametim yeh Alléluia. Ce n'est pas les morts qui louent à Kadosh Baruch Hu. Arrêtez de glorifier la mort. Anachnu nevarechia. Donc la vie est gagnante. Donc Akadosh Baruch Hu est gagnant. Donc le Dieu vivant est gagnant. Quand le Rav Kook est arrivé en Eretz Israël, sa maman était sur le pont du bateau qui arrivait à Haïfa. Et il y avait deux bonnes sœurs qui disaient à la maman du Rav Kook, vous allez en Palestine? Alors la maman du Rav Kook a dit, oui, je vais sur ma terre, la terre d'Israël. Il dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, ben nous, on va pèleriner notre Dieu, il est enterré à Nazareth. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? La Rav Kook, la femme, la mère du Rav Kook dit, moi, je vais voir mon Dieu vivant, il n'est pas enterré. C'est ça la grande différence. Dieu n'est pas mort, le Dieu de la religion, celui-ci, il faut le tuer, oui. Comme disait Nietzsche, Dieu est mort, mais pas le Dieu d'Israël.
En quoi la résurrection?
La résurrection des morts consiste,
comme on l'imagine,
et comme vous l'imaginez, mais plus facilement, comme je suis en train de vous voir. Vous venez d'où? D'où?
De
Grenoble. Alors il est écrit un texte dans Ézéchiel 37, je vous sortirai de vos tombeaux et je vous ramènerai sur la terre. Voilà, j'ai en face de moi un mort vivant. Vous avez subi la résurrection des morts. Je ne rigole pas. Ça fait sourire tout le temps.
Le Vadaï.
Exactement. Comment s'appelle la terre d'Israël? Eretz Hachaim, la terre des vivants. Sous-entendu, les autres terres, et si ce n'est pas clair, le prophète le dit. En tout cas pour Israël, pas pour les autres nations. Les autres nations, c'est leur place. Mais pour Israël, tu ne vis pas, je vais être un petit peu moins sévère, avec l'intensité de ta vie. Tu vas vivre moins que cette intensité, je vais être un petit peu plus précis, tu vas vivre au niveau individuel, à Grenoble. Mais tu ne pourras pas vivre nation. Donc je vais te sortir de ce tombeau relatif, de l'individu par rapport à la nation, pour que tu viennes vivre ton état au niveau de la nation. D'ailleurs, quelle est la signification d'un rachat en hébreu? Ce sont les initiales. Raton, Shel, Atmo. Resh, Shin, Ayin. Un homme qui ne vit que pour lui-même, au niveau individuel, égoïste, est un rachat. Ratson shel asmi. Par conséquence, le tzaddik c'est quoi? c'est l'homme klali. C'est l'homme qui a touché cette neshama collective. Maintenant, nous allons monter de niveau. À quoi ça sert d'être au niveau collectif? Attention, je répète quelque chose parce que les gens peuvent sortir et j'ai appris à me méfier parce qu'il y a tellement de petites nuances. Et étant donné que je suis un homme limité, moi aussi, je ne peux pas balayer absolument tout. Je n'ai pas dit que l'individualité était négative. J'ai dit que l'individualité, lorsqu'elle est séparée de la nation, elle est négative. Mais je dois être individuel, pourquoi? Parce que j'ai une manière à moi d'être et de dévoiler les choses que personne n'a. Et je peux dire ça pour chacun d'entre vous. Et donc si l'un d'entre vous manque dans ce monde, il y a un problème. Parce que vous avez votre spécificité. Et c'est celle-ci qu'il faut mettre en relief. Mais vous êtes toujours des passeurs de lumière de ce clan Israël, selon votre prisme à vous. De la même manière que vous ne vous ressemblez pas physiquement, dit la Gemara, de la même manière, les idées qui viennent de l'unité infinie passeront par vous d'une manière différente. C'est tout. Alors c'est vrai, vous pouvez aller à un autre cours où on va dire exactement l'inverse de ce que je suis en train de dire. Pas grave, vous avez choisi de venir ici, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Voilà. Et il faut chercher dans votre vie celui qui est capable de toucher en réalité votre essence. Et si vous trouvez un jour dans votre vie un rave, un enseignant, j'aime pas tout ce genre de définition, qui est capable de vous chatouiller la neshama et vous sentez que c'est en lien direct avec vous, ne le quittez pas. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent « Asseh lecha rav ». Fais-toi un rav, ça peut durer une vie entière pour le trouver. Mais quand tu l'as trouvé, c'est fini. Je passe à la partie maintenant.
Alors si c'est un rav qui est en Galilée et qu'on l'a trouvé, et qu'on dit, pour être pays, mais c'est fréquent.
D'après tout ce que je viens de vous dire maintenant, vous ne devriez même pas poser la question.
Oui,
donc si vous êtes d'accord... Ça vous a plu l'absolu avec les deux barres? Alors, dans l'absolu avec deux barres, vous êtes mal barré. Voilà. C'est-à-dire, je vous ai répondu gentiment. Ou mitorkar, parce que ce rave ne peut pas contredire la Torah. Je ne suis pas en train d'inventer des versets qui n'existent pas. D'accord? Akadosh Baruch Hu nous dit clairement son programme, c'est ce qu'il veut de nous. Donc, je peux monter et descendre, ça ne marche pas. Ça m'arrive de voyager en France pour donner des séminaires. Je me trouve en face de gens qui sont des talmidei chachamim, des sages, des érudits. Alors, de temps en temps, ils me sortent une référence. Deux références, cinq références. Mais j'ai un cartable avec 3 kilos de références. Pas 3 références, ni 300 références. 3 kilos de références. Pourquoi? Parce que j'ai aucun mal. Toute la Torah ne fait que parler ça. Ou mitorka. Donc, d'après tout ce qu'on vient de dire, i efshar la amod ala tochen shel sgulat kedushat eret Israël. On ne peut pas, en ayant compris un tout petit peu ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant, on ne peut pas comprendre la qualité intérieure profonde de la sainteté de la terre d'Israël, où l'est aussi la poêle. Et pas seulement la comprendre. On vous a dit tout à l'heure qu'il faut activer la chose. Parce que ce potentiel, vous l'avez, mais est-ce que vous l'activez? Est-ce que vous appuyez sur le bouton? Bien, tu ne pourras pas le faire. Et en mekribata, la profondeur de cet amour que tu devrais avoir envers cette terre, beshum haskala rationalis enoshik. Avec aucune haskala, éducation intellectuelle, rationaliste, enoshite, rationnelle humaine. Rav Kook, c'est un géant au niveau de la pensée, attention. Hein. si lui nous dit que pour comprendre Eretz Israël et activer ses moyens, je dois lâcher prise, parce qu'avec mon cerveau, je vais tourner en rond et je ne vais jamais pouvoir sortir réellement de ce cercle vicieux qui s'appelle Mitzrayim. Alors voilà, vous avez une nouveauté. Mitzrayim, c'est une tête. Elle est ronde. Et donc vous tournez en rond toute votre vie. Et tous les gens qui n'arrivent pas à trouver une direction, c'est parce qu'en réalité, ils pensent tellement, ils réfléchissent tellement, ils sont tellement intelligents que leur intelligence, c'est leur premier ennemi. Et en réalité, elles tournent en rond. Mettez une fourmi sur un ballon. Elle devient folle. Elle peut tourner 200 ans jusqu'à ce qu'elle meure. Le Hari HaKadosh nous dit que c'est ça la notion d'Égypte. Tourner en rond. C'est d'ailleurs toutes les fautes que nous faisons dans notre vie, ce sont des fautes du tourner en rond. L'une des grandes fautes que vous connaissez, seulement comme vous la traduisez en français, c'est devenu quelque chose de ridicule, c'est la faute du veau d'or. En hébreu, c'est pas ça du tout la traduction. Chet ha'igoul. Chet ha'egel. C'est la faute du cercle. C'est rester coincé dans un rond, dans une bague. Tu es embagué. Vous avez compris ? Si nous continuons à étudier la Torah dans une langue étrangère à sa structure réelle de base, tu es déjà dans la trahison. Donc traduction égale déjà trahison, obligatoirement. Je fais un effort 10 fois supplémentaire pour essayer d'être le plus collé à la sémantique réelle de l'infini, car nous avons ici affaire au verbe de l'infini, pas n'importe quoi. C'est la Torah, c'est une prophétie. Si je ne sais pas, si je ne prends pas en compte ces termes-là, je suis déjà dans le dévoiement. Je sors de la voie. Comment on dit sortir de la voie en hébreu ? Sauter. D'accord ? Quelqu'un qui nage, saurait. La femme qui dévie, sauta. D'accord ? À l'infinitif, Satan. Satan, c'est pas le démon avec une fourche du club même. Satan, c'est la déviation qui se trouve en chacun de nous. Et elle commence par quoi ? Mais tout simplement, sortir du texte réel. Si tu sors du contexte, et tu ne connais pas les secrets de la langue et les lettres qu'on peut intervertir dans le alphabet hébraïque, il te manque l'essentiel. Je dis à tous, vous avez raté votre plus importante étude de la Torah, l'Ulpan. Ulpan, vous savez ce que ça veut dire ? Sagesse. Et alper Bina et Alper Torah et Alper Chochma. Ulpan et Gat Sagesse divine. C'est pas je vais à l'Ulpan. Hein? Malheureusement, encore une fois, on ne sait pas. Alors on avance. Bahou Hashem, on est là pour guérir. Je peux paraître un petit peu coupant, mais en réalité, je ne le suis pas. Je vous aime tellement. Et Baruch HaShem que nous sommes là déjà, c'est déjà une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Alors on est là pour guérir de 2000 ans d'exil. C'est là. Vous voyez, je fais même moi-même le boiteux, je vous parle en français. Je joue avec vous. Sympathique. Alors que c'est pas ma langue natale du tout. Et moi je suis né Israël. Je suis né en Israël. Ma langue natale c'est l'hébreu. Donc je fais un effort pour arriver à porter ce message dans une langue étrangère. Vous savez comment ça s'appelle, toute langue qui n'est pas hébreu dans la Torah ? Lo'azit. Et vous savez ce que ça veut dire ? Lashon Avodazara. C'est-à-dire, alors arrêtons de nous faire mal, on revient, peu importe, on étudie Baruch HaShem avec un texte en hébreu, et les sages nous disent, et c'est pour ça que je vous distribue des feuilles, c'est très important de voir le texte, Otiyot Markimot. Les textes en hébreu, les lettres en hébreu, elles rendent la personne sage. Vous savez ce que ça veut dire des lettres? Qu'est-ce que ça veut dire des lettres? Otiyot, qu'est-ce que ça veut dire? Ot. Des signes. C'est quoi ot? En français, quand vous cherchez un mot, vous cherchez dans la racine grec, latin, d'accord? Alors en hébreu, il faut aller chercher en araméen. Qu'est-ce que c'est ot? Verbe ata, tout d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire ata dans la Gemara? Ata Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire ata? Non, il est venu. Ata, il est venu. Donc ot, iot, c'est celles qui font venir. Elles font venir quoi les lettres? Des énergies. Elles sont porteuses d'un message. Ce sont des véhicules. Dans le Zohar, on les appelle sous Seyesh, des chevaux de feu, parce que ce sont comme des vers qui portent un certain liquide qui en réalité la donnée intérieure. Et chaque lettre est porteuse d'un message, et elle passe devant nous. Et il faut que tu les attrapes au vol. Otiot Markimot. Et plus tu en attrapes, plus ta sagesse augmente. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est pas le pouvoir penser. C'est le pouvoir agir. Alors que normalement, on pense que la sagesse, c'est ce qui pense. Philosophie. J'aime penser. L'amour de la pensée. C'est pas ça le judaïsme. Si la pensée n'est pas un acte, ce n'est pas une pensée. Nous apprenons ça du grand patron. Kulam bechokhma asita. Ta sagesse divine, c'est une sagesse qui a des jambes et des mains. Kol shechokhmato meruba mima'asav, en chokhmato mitkayemet. Pirkei Avot. Quelqu'un qui a une sagesse, mais qui n'a pas une mise en marche de cette sagesse au niveau de ses mains et de ses pieds, ce n'est pas une sagesse. Kol shema'asav merubim mi'chokhmato, chokhmato mitkayemet. Par contre, si tes actes sont plus nombreux que tes paroles et que tes pensées, ça veut dire déjà que tu es quelqu'un qui prend un tout petit peu et qui arrive à grandir avec. J'ai demandé à mon maître si je peux être son élève. C'est facile de dire je suis l'élève d'eux. Il y a plein qui se moussent comme ça. Est-ce que lui te considère comme être son élève? Ça c'est autre chose. Alors quand j'ai téléphoné à mon Rav en lui disant « Est-ce que je peux dire que je suis ton élève ?» Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais une fois que le cours est terminé ?» Je lui dis « Bien, c'est très simple, Vodarav, c'est pour ça que je vous appelle. Chaque fois que je sors de votre cours, j'ai l'impression de pouvoir écrire un livre entier et pouvoir changer ma vie. » Il m'a dit « Alors tu es mon élève. »
C'est comme
ça. Ok ? J'ai, Baruch HaShem, je ne sais pas pourquoi, okay, mais Akadosh Baruch Hu m'a donné cette chance, j'allais dire, okay, de pouvoir être l'élève de l'élève du Rav Kook, en personne. Donc, il n'y a pas de rationnel humain pour parler de ce sujet. Qui im? Alors comment? Qu'est-ce que nous devons faire? Puisque nous avons ici un sujet tellement énorme, tellement grand, comment est-ce qu'on va pouvoir, et la preuve c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Alors comment est-ce qu'on peut, je vous ai souligné, qui in, si ce n'est que, beruach Hashem, avec le souffle divin, asher ala umma bichlala, qui souffle sur la nation tout entière. Voilà, la clé. Vous l'avez. Tu veux réussir à parler de la terre d'Israël, de cette notion de Israël, de cette notion d'être le porte-parole de l'infini, ce n'est que avec le souffle de Dieu qui plane sur la nation tout entière, c'est-à-dire la Neshama dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a précédé tous les corps. Behatba'a hativit aruchanit, parce que quand tu parles de la nation, tu parles de quoi en réalité? De qui? Hatba'a tiv'it. Qu'est-ce que c'est hatba'a tiv'it? Un saut. Comme hatba'a. Hatba'a, c'est un saut. En creux. Okay? Les hatbia. Okay? Si tu veux t'acheter, par exemple, je ne sais pas moi, des birkat Amazon pour faire un mariage, une brit mila, tu vas chez le marchand, tu dis à Nirotse, birkat Amazon, behatba'at zahav. Avec un texte gravé en or. Alors là, behatba'at ivi, ça veut dire que l'Éternel a mis en nous comme un seau, il nous a creusé, c'est-à-dire lui est en relief et nous, nous sommes en creux. Vous comprenez comment ça marche? Haruchanit asher benishmat Israël, qui se trouve dans la neshama du peuple d'Israël tout entier. Moins que ça, tu resteras un petit, c'est pas un dédain, hein, mais tu tomberas dans la religion. Tu ne comprendras pas ce que c'est que le judaïsme. Tu vas avoir vraiment l'impression que le judaïsme, c'est une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Le judaïsme est une nation créée pour dévoiler les paroles de l'infini. Aucun rapport avec une religion. Une religion, ça commence par l'homme. La Torah commence par le Créateur. C'est lui qui descend, entre guillemets, descend vers nous. Nous ne montons jamais vers Dieu. Il est interdit de monter à Dieu. C'est limité à ta propre connaissance. Tu montes. Qu'est-ce que tu montes? Tu quittes l'endroit où tu es, sous-entendu, il n'y a rien là où tu es. Tu dois monter. Il n'est surtout pas là. Donc arrêtez de monter, de descendre. C'est lui qui descend. D'ailleurs, il ne nous a même pas attendu. Vayered Adonai al Har Sinai. C'est lui qui descend. Descend dans le langage de la Torah qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un déplacement, attention, hein. Il n'était pas à 3000 km, il est venu un tout petit peu proche de nous. Il y a des gens qui me font rire, ils montent un petit peu en avion, ils me disent « je me sens plus proche de Dieu ». Chas v'shalom, t'as rien compris quoi. Ah, ça veut dire quoi? Vous êtes descendu vers la terre. Regardez comment monter, c'est se rapprocher de la terre. Donc plus vous vous couchez sur la terre, plus vous êtes proche du ciel, de la terre d'Israël. Exactement. C'est ça, c'est une élévation intérieure parce que je suis capable de quoi? De comprendre que l'infini touche le fini sur cette terre. Je vous emploie un texte de la Gemara. Shmaya ve'ara nashke hade bahadade. La terre d'Israël, c'est le point de contact, de baiser entre le ciel et la terre. Regardez les expressions de nos sages. C'est là où Dieu embrasse le monde. C'est là où vous vous trouvez. Et en embrassant le monde, il vous embrasse en même temps. Dans le petit fascicule que vous lisez quand il y a Chanukat Bayit, vous avez déjà fait Chanukat Bayit, d'accord? Il y a un petit passage du Zohar. Là-bas, il y a marqué « Ahavti etchem neum Hashem ». Je vous ai toujours aimé, dit l'Éternel. Toujours. Depuis que je te connais, je t'ai aimé. Le premier regard, je suis tombé amoureux. La première pensée avant que je te voie, je t'ai déjà aimé. Mais je ne suis pas quelqu'un qui n'est que au niveau des paroles, les paroles, et qu'un. Mon plus grand amour, je vais te le prouver. Je vais te permettre d'acheter un appartement en terre d'Israël. Comme ça dit le Zohar. Si vous avez une maison en terre d'Israël, achetée ou en location, peu importe, c'est la même chose, que vous vivez ici, vous n'avez pas plus grande preuve que Dieu vous aime. Parole du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Il y a plein de gens qui ont un appartement et qui ne vivent pas ici. Hein.
Encore une fois, je vous ai dit que c'était la couche de secours aujourd'hui. Prendre conscience. Tant que nous n'étions pas en train d'étudier Oroth du Rav Kook, on vit ici, c'est sympathique. Mais je vous garantis que ceux qui vont tenir la route, parce que c'est pas évident, dans 2-3 mois, Bezrat Hashem, vous allez avoir un amour pour cette terre et une prise de conscience que vous n'avez jamais eue dans votre vie. Moins que ça, c'est dommage. Je vous ai dit tout à l'heure, on doit même faire un stage au Gan Eden pour revenir et prendre conscience de ce que c'est la terre d'Israël.
Il
a fait mode. Hachem veut un amour permanent. Les coups de foudre, ça ne sert à rien. Ça sert à réveiller de temps en temps, mais ce n'est pas en réalité. Il préfère que tu étudies 10 minutes par jour que 1 heure par semaine. D'accord ? 5 minutes par jour. Comme ça, ça ne fait pas le même chiffre. Il va me dire c'est la même chose. Je les connais maintenant, les Juifs. Ils me font des calculs tout de suite. Okay. C'est-à-dire la régularité est plus importante que waouh, une journée entière, je suis à la yeshiva. D'accord ? Il vaut mieux chaque jour, un petit peu. C'est comme, encore une référence de nos sages, un homme qui a 2 enfants et les 2 viennent le voir et lui disent « Papa, donne-nous un peu d'argent. » Le père donne au premier une somme extraordinaire et au deuxième, il lui donne même pas le centième. Bon, les enfants s'en vont et le fils revient, il dit « Papa, pourquoi tu m'as donné comme ça ?» Il dit « Parce que je t'aime tellement que je veux que tu reviennes tous les jours. » Vous avez compris ? C'est comme ça que ça marche. Et pourquoi ? Parce que cette terre d'Israël, elle envoie des kavim, des lignes, c'est-à-dire des rayons de lumière, betzvaim tiv'im, avec des couleurs naturelles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait l'un des secrets dans la langue hébraïque, c'est l'intervertissement des lettres. Tseva, couleur, le tzadik de tseva, on peut le changer avec le tes de teva. C'est-à-dire que la nature égale couleur. Couleur égale nature. Tseva, teva. C'est-à-dire, dans le hors nature, il n'y a pas de couleur. C'est transparent. À partir du moment où tu as une couleur, c'est que tu es dans la nature. C'est que tu as déjà une nuance. Donc tu es déjà dans le monde des nuances. C'est-à-dire ? Donc, dans ce monde-là, la terre d'Israël nous envoie, par sa profondeur, par ses secrets, des couleurs, des traits de couleurs naturels. Qu'est-ce que ça veut dire naturel ? Qui correspondent à notre nature. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que tu peux étudier, mais si l'étude que tu es en train de faire ne correspond pas à ta nature, tu es en train de détruire l'élève. C'est comme un enfant, on veut éduquer les enfants tous dans le même moule. C'est faux ! Chaque enfant, il a un caractère, et si tu ne connais pas son caractère, tu es en train de l'étouffer. En voulant lui donner ce que toi tu n'as pas réussi dans ta vie. Tous tes fantasmes, tu es en train de lui mettre sur lui le pauvre, surtout l'aîné. Misken, le deuxième, le troisième, il est déjà tranquille. Mais l'aîné, il a pris tous vos problèmes. Alors, ne vous étonnez pas pourquoi c'est un petit peu plus dur pour lui de se marier, de construire, de faire. Vous l'avez massacré. Alors, Baruch HaShem, il y a des gens intelligents qui arrivent à comprendre ce secret-là. Mais il faut lâcher prise. Vous connaissez le film Jurassic Park ? C'est au lieu du dinosaure, c'est la mer qui court. Okay. Lâchez-les, les enfants. Lâchez-les. Faites-leur confiance. Betzvaim tiv'im bechol ha'orchot shel ha'argasha ha'bri'ah. Et vous allez avoir un sentiment sain. Le judaïsme, c'est pas quelque chose de névrosé, de nerveux,
de maladif, d'obsessionnel, de peur. Qu'est-ce qui va me faire le bon Dieu? Pas du tout, tu vas grandir avec un sentiment bria, sain. Le judaïsme, c'est naturel, c'est un plaisir, c'est un kiff. Non. Quand on ne les comprend pas. Et justement, c'est quand on ne les comprend pas. Non, quand on ne les comprend pas. Un jour, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi El-Hazar, est allé voir un rav, parce que son père, Rabbi Shimon, lui a dit, va prendre une bracha du rav. Il est revenu, il était vert. Il dit, mais il m'a fait que des malédictions. Il dit, ça c'est dans ton premier niveau de compréhension. Tu n'as pas compris. Il t'a fait en réalité que des bénédictions. La bouche divine ne peut pas sortir le mal. Le mal, c'est quoi? C'est quand tu n'arrives pas toi-même à ouvrir le bien qui t'est préservé. Je t'ai réservé du bien. Ouvre-le. Le mal n'existe pas. C'est un manque de ce bien. De la même manière que le noir n'existe pas. C'est un manque de lumière. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Quel? Ma. Habria. C'est-à-dire pas la création. Le fait d'être saint, de corps et d'esprit. Hargashabria. C'est la même racine d'ailleurs. J'en ai parlé la dernière fois que le mot bara et bari, briout. Quel? C'est le secret de l'équilibre. Et donc c'est sortir, exprimer. Voilà. Si vous arrivez à exprimer ce que vous avez, ce que vous êtes, vous devenez saint. Pas S-A-I-N-T-S. Okay? Saint d'esprit et de corps. C'est-à-dire, si tu sais exprimer ce que tu es, tu parles, barra. Tu fais sortir, comme en arabe, faire sortir, exprimer, extérioriser. C'est exactement ça. C'est pour ça que la plus grande des guérisons, c'est ce que vous faites pendant la thérapie de groupe que vous faites une fois par an dans le Seder de Pessah. C'est une thérapie de groupe. Vous devez tous parler. D'ailleurs, même le livre s'appelle Le Grand Parler. Haggadah, les Haggid, Haggadah, Tagadah, Tagadah, c'est les Dalton. Et plus tu parles, mieux tu te portes. Kol hamarbe les saper, hareze meshubach. Il s'améliore. Pourquoi? Parce qu'il arrive à exprimer. Quelqu'un qui se tait, pire, qui devient muet, il aime. Il est obligé de s'exprimer. Il devient alim. Regardez, c'est les mêmes lettres. Alimut, c'est-à-dire violent. Donc, il aime alim. Quelqu'un qui n'a plus de verbe prend un verbe. Donc il faut guérir de ce mal. Et le premier mal, c'est l'exil de la parole.
En français, d'ailleurs, la maladie, c'est aussi le mal à vivre.
Tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire, et donc, vous avez dans tous les langages des secrets qui se cachent.
On parle de la pétard, on voit. Donc, la vérité,
ça... Non. On te dit de boire pour pouvoir parler. Pourquoi? Parce que quand tu bois, tu commences à lâcher prise. Et donc tu commences à sortir. Mais si tu restes dans ton cerveau cartésien, tu fais un mal intelligent. En faisant quoi? La gueule. Quand je dis aux gens, soyez sérieux, qu'est-ce qu'ils font? La gueule. Quand tu dis à quelqu'un, sois sérieux, tout de suite il fait la tête. Pas du tout, dans le judaïsme, sois sérieux, tu souris. Le sérieux dans le judaïsme, c'est d'abord ne pas se croire, ne pas se prendre pour être dans l'humilité. Mais attention, l'humilité, c'est pas de dire « Ah, moi, je suis rien du tout ». Ça, c'est de la bêtise. Il faut savoir ce que tu es capable de faire, et il faut le faire, quand il faut le faire. Et te taire, quand il faut te taire. La suite au prochain épisode. De toute façon, il y a Aaron qui est en train de s'appeler. Toda Rabba.
Revenir sur ce mot de Géoula. J'ai entendu à Malar Sarouen,
Tu ne peux pas t'en sortir. Tout est fixé.
Alors, mais nous, on se doit de faire le tikkun au maximum de sens, en faisant le cadeau, en attendant.
Je sais, il y a un âge, vous avez des enfants, vous avez des enfants, exactement, c'est eux qui font le plus. Bah, où ça fait ? Vous êtes en train de faire le plus grand de confiance. Merci beaucoup, monsieur.
זה אומר שמה?
זה אומר שמה? תודה רבה לכם.
Tu sais comment je vois le rad là, c'est en physique, ça s'appelle le... J'aimerais bien trouver justement ce parallèle-là, c'est ce qu'on appelle l'espace de Hilbert. C'est un espace de tous les possibles. Et je t'ai dit que j'avais vu un truc de fou. C'est l'expérience de la gomme quantique avec, au choix retardé. Tu démontres que le futur agit sur le passé. Mais c'est en physique, hein. De John Wheeler. Oui, c'est passé, je peux. Tu le veux, celui-là?
Ouais.
Non. C'est
très bien. Merci beaucoup.
Je suis pressé.
Ouais, non, celui-là, c'est bon. Merci.